Bien, je reprends le cours. Et donc, j'aborde maintenant pour un certain nombre de séances, au nombre indéterminé, un certain nombre d'observations sur cette forme de poésie japonaise qu'on appelle le haïku. Je vous rappelle que le problème que j'ai posé, c'est de passer de la notation du présent au roman, et donc de passer d'une forme brève et fragmentée, par exemple les notes qu'on peut prendre au jour le jour, dans un journal intime ou dans un carnet, dans des carnets de romanciers, donc de passer d'une forme brève et fragmentée à une forme longue et continue, qui est celle ordinairement du roman. Donc, de là a fini la décision de m'occuper un peu du haïku, pour ensuite, d'ailleurs, m'occuper du roman. Et cette décision est moins paradoxale qu'il y paraît, parce que le haïku est une forme exemplaire de la notation du présent. C'est un acte minimal d'énonciation, c'est une forme ultra brève, une sorte d'atome de phrase qui note, c'est-à-dire qui marque, qui cerne, qui glorifie, qui dote d'une renommée, d'une fama, un élément ténu de la vie réelle, présente et concomitante du sujet qui est. Alors évidemment, ce que je vais avoir à dire du haïku n'aura rien d'historique. Il s'agira de mon haïku. En mettant des guillemets à mon, parce que je voulais dire une fois de plus, que lorsque je dis mon haïku, je maintiens que je ne renvoie pas, ou l'expression ne renvoie pas, ou ne renvoie pas finalement, à un égotisme ou un narcissisme, entre parenthèses d'ailleurs ça n'est pas la même chose, reproche fait parfois paraît-il à ce cours. Or dans mon esprit, le fait de dire que, sous certaines conditions, j'essaye d'observer bien sûr sans le dire, ne renvoie donc pas à un narcissisme ou à un égotisme, mais à une méthode. Pour moi, le fait de dire que est un acte méthodique, est un acte de méthode. Il s'agit d'une méthode d'exposition, d'une méthode de parole, qui consiste non pas à dire le sujet, mais essentiellement à ne pas le censurer, ce qui est tout différent. Par conséquent, cette méthode viserait, s'il était bien observé, et peut-être au bout d'un certain temps, à changer les conditions rhétoriques de l'intellectuel, du discours intellectuel. Donc, mon haïku, ça veut dire simplement que le haïku va me servir de thème cristallisateur, de thème à variation, comme on dit en musique, de lieu géométrique, de pensée, de problème et de goût. Le haïku fonctionnera donc pour nous, si vous voulez bien, entrer dans le jeu, évidemment, comme une sorte de simulacre ou d'alibi, au sens étymologique du terme, ou si vous voulez, encore mieux, d'une façon plus provocante, je dirais, ça nous servira d'acte de nomination. Je dirais, par exemple, à tout ce que je vais dire, je donne le nom de haïku, avec cependant une certaine vraisemblance. Ça serait un peu ce qui se passe dans, je ne sais pas si j'ai lu ça, si c'est dans, je me demande si ce n'est pas dans les trois mousquetaires de Dumas, quand Aramis est confiné dans une auberge où il discute avec des prélats, et à un moment on leur apporte de la viande le jour de carême, mais peut-être que c'est un faux souvenir, je ne sais pas. On leur apporte de la viande un jour de carême, et il dit, je te baptise car. Eh bien, je dirais la même question, je te baptise haïku. Ce que je vais dire, je vais le baptiser à écrire. Et je dirais que, toute proportion gardée, ce serait un peu le même rapport, vague, insistant, et probablement déformant, et que je vais entretenir avec l'haïku, que celui que les classiques avaient avec l'antiquité. Car les classiques avaient un rapport étroit, familier, quotidien, avec l'antiquité, et pourtant, de notre point de vue à nous modernes, philologues, c'était un rapport finalement complètement faux, complètement déformé. Est-ce que je peux croire aujourd'hui, par exemple, que Racine avait le même rapport au grec que, par exemple, Jean-Pierre Vernant, Marcel Desquiennes, qui vous parlait ici, il y a deux ou trois semaines? Ah non, évidemment pas. Ce n'étaient pas les mêmes Grecs dont on parlait il y a 200 ans et dont on parle aujourd'hui. Évidemment, la différence de fait, je ne parle pas évidemment des différences de valeur, c'est que les classiques savaient très bien le grec et le latin, et moi, pas du tout le japonais. Je dirais, et encore, non pas que je sache le japonais, mais je veux dire que toutes les traductions classiques, si vous y réfléchissez une minute, de grec et de latin, sont en général aujourd'hui à revoir. Ceux qui, je dirais comme moi, par un phénomène de génération, ont fait au moment du lycée, et ensuite un peu à la Sorbonne, des études classiques de latin et de grec, savent très bien que lorsqu'il y avait une version latine à faire, et qu'on ne savait pas bien la faire, ou tout simplement s'ennuyer de la faire, eh bien, le jeune écolier, le jeune lycéen, allait à la bibliothèque Saint-Geneviève, il n'était pas nécessaire d'avoir une carte, et demandait des traductions de César ou de Philippe, et on lui apportait toujours des traductions classiques d'autrefois. Et le résultat, c'est qu'il faisait beaucoup de contresens, d'un point de vue moderne. Donc, les traductions classiques sont aujourd'hui en général à revoir, et on peut dire qu'une traduction, quelle qu'elle soit, ça doit se refaire tous les 25 ans. Donc, il n'y a pas d'éternité philologique du sens, le sens se refait tous les 20 ans ou tous les 25 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grands classiques, ou les grands classiques étrangers, sont périodiquement retraduits. Et ceci en dit long sur les certitudes de la philologie. Donc il s'agit ici, il s'agira d'un discours qui sera un discours non pas de l'explication ni même de l'interprétation, mais de la résonance. Comment le haïku résonne. Et maintenant je voudrais parler du haïku dans sa matérialité. Alors, je dis bien, n'est-ce pas, dans sa matérialité, et non pas dans son histoire, ni même dans sa structure technique, mais le haïku, tel qu'il se donne à voir à un français. Alors, vous le savez, pardonnez-moi en tout cas ceux qui le savent de le rappeler, que le haïku, ou le haïkai, disons le haïku, est un tercé, petit groupe, ou un groupe de trois petits vers. Nous autres Français, il me semble que nous n'avons pas couramment, disons, dans notre poésie, cette forme du tercé. Il peut y avoir, bien sûr, tout existe dans la poésie, donc il y a certainement des tercés dans la poésie française. Ce n'est pas une forme normale et courante de notre poésie. Il semble commencer plutôt au quatrain. Alors que vous savez que toute l'œuvre de Dante, enfin toute la Divine Comédie, est écrite en tercé. Et le hasard a fait que, au moment où on préparait ceci, je lisais du Valéry, et je suis tombé sur cette phrase, Dante n'a rien donné aux Français. Dante n'a rien donné aux Français, pas même le tercé. Et simplement, d'après Valéry, dans la troisième partie de la Divine Comédie, qui s'appelle Paradis, il aurait produit une sorte de, une manière de versification abstraite que Valérie dit avoir reçue dans le cimetière marin. Donc, en France, c'est pour les Français, pas de tercet. Donc, c'est un tercet. Vous savez que le japonais est une langue très fortement syllabique. C'est une langue qui est faite de syllabes bien nettes, bien posées, même si lorsque les Japonais parlent à la vitesse normale de leur langue, on ne distingue pas bien le découpage syllabique. En réalité, c'est une langue très syllabique, et je dis en passant d'ailleurs, sans en tirer de conséquences, que je ne sais plus qui, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, on a pu mettre l'acte de syllabation en rapport avec la manducation. Dans la production de la syllabe et dans l'action de manger, il y a à peu près la même action du maxillaire inférieur. C'est pas tout à fait en réalité. Nous mangeons nos mots, nous mâchons nos mots ou nous les mordons. Donc, le japonais, c'est une langue très fortement syllabique. Cela se voit, par exemple, dans le fait qu'il y a un alphabet syllabique, un syllabaire, qui s'appelle le kana, et qui double les kanji, c'est-à-dire les idéogrammes, qui sont l'écriture courante du japonais, que le japonais a emprunté au chinois, mais bien sûr avec une autre prononciation, par soi. Mais, doublant donc les idéogrammes, kanji, il y a en japonais deux alphabets supplémentaires, mais je ne parle que d'un, le kana, qui est un alphabet syllabique, qui est utilisé surtout pour les noms propres et pour les mots utiles. Parce qu'évidemment, les noms propres ne pourraient pas s'écrire en idéogramme. Or, on a un alphabet adventice qui aide l'expression des noms propres et qui est un alphabet syllabique. Une autre preuve, disons, de ce caractère syllabique du japonais, c'est que c'est une langue où il est relativement facile de prononcer les mots et par conséquent de se faire comprendre. C'est une langue extrêmement difficile à apprendre, bien sûr, par sa syntaxe, son vocabulaire, par aussi l'écriture idéographique, bien sûr, mais en réalité, c'est une langue qui est facile phonétiquement à percevoir. Et je dirais, par exemple, qu'il est beaucoup plus facile à ce sujet de prendre un taxi à Tokyo qu'à New York. Vous pouvez très bien savoir l'anglais dans les livres, mais si vous donnez une adresse à un chauffeur de taxi américain, il se peut très bien qu'il ne vous comprenne absolument pas. Tandis que si vous donnez une adresse en lisant simplement votre papier à un chauffeur de taxi japonais, il vous comprendra. Parce que la langue est syllabique et donc facile à comprendre. Il n'y a pas plus cette déperdition, ce remue-ménage de sons qu'il y a dans des langues comme l'anglais, surtout, mais même comme le français, où la présence de le muet complique beaucoup le jeu des syllabes. Alors, le tercet, le haïku comme tercet, comprend une formule canonique, orthodoxe, qui est de nom de trois vers, le premier de cinq syllabes, le second de sept syllabes, et le troisième de cinq syllabes. Je vais vous donner, par exemple, un exemple de haïku en japonais, pour que vous puissiez vous-même compter les syllabes. Voir que je ne vous raconte pas l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes dans une salle vite sonorisée, qui est un euphémisme pour dire qu'elle n'est pas visualisée, et je m'excuse auprès d'elle parce que je vais écrire ce haïku au tableau. Alors voilà un haïku.
Voilà. Alors, je vais compter. 1, 2, Kourou, Kéyo, Ya, 4, 5, Kawasasu, Kobu, Kobu, 7, Mizunoto, 5. 5, 7, 5. Alors, nous avons un auteur français qui a, c'est un haïku très célèbre, hein, il est Bachetou. Et un auteur français qui était Kiran, et occupé de ses problèmes de littérature orientale, a voulu traduire, je reviendrai d'ailleurs sur la question, ce haïku en gardant le rythme 5-7-5. Et ça a donné ça. Une vieille mare, une reine en vol plongeant, reine écrit R-A-I-N-E, c'est la grenouille, n'est-ce pas? Une reine en vol plongeant et le bruit de l'eau. 5, 7, 5. Je trouve ça personnellement très mauvais comme traduction. Et je reviendrai sur ce problème d'avoir à traduire en 5, 7, 5. Donc la formule canonique du haïku, c'est ce que j'appellerai 575. Alors naturellement, il y a des exceptions, comme toujours, des adaptations, des licences. Il y a une certaine tendance au vers libre, et ceci nous importe parce que si le haïku va vers le vers libre, c'est que à ce moment-là, tendanciellement, il ne restera plus que la notation pure, non versifiée, non mesurée, avec comme seule contrainte dont je parlerai beaucoup la prochaine fois, la présence de ce qu'on appelle un mot saison, un mot qui dénote la saison, qui d'ailleurs contrainte qui finalement est elle aussi parfois contestée. Donc, avec, comme toujours dans les cas de l'histoire littéraire et l'histoire des formes, un retour du balancier, certains haïkistes réclamant le retour strict au 575. Ils voulaient bien accepter que nous donnions au haïku, ce qui est presque le nom d'un canon de la Grande Guerre. Donc 575, pour nous, c'est le haïku. Or, ce que nous consommons, nous, c'est un vers libre et qui nous plaît. Quand nous lisons du haïku traduit, nous consommons un vers libre et un vers qui nous plaît, malgré l'absence de maîtrise. Et ici, donc, se pose le problème de la traduction des haïkus, dont je veux dire un mot sous deux aspects. Premièrement, je voudrais souligner l'énigme, ce qui est pour moi une énigme. Comment ce qui me vient d'une langue très étrangère, par la même très étrange, dont je n'ai pas le moindre rudiment, en lisant les vers japonais, je suis absolument incapable de vous dire où sont les substantifs, où sont les verbes, etc. Je ne reconnais absolument rien. Donc, comment est-ce que ce qui me vient d'une langue très étrangère, et qui plus est d'un discours poétique, pourtant vient me toucher, me concerne et m'enchante. Et pourtant aussi, je ne peux vérifier même de loin la traduction. C'est là qu'il y a une énigme. Je suis, quand je lis des haïkus, je suis entièrement livré au traducteur, et cependant, le traducteur, visiblement, ne fait pas barrage, sauf dans le cas des fiances, parce que je me plais au haïku que je lis. Par conséquent, il y a de moi au haïku, si je puis dire, du haïku à moi, une situation de familiarité tout à fait paradoxale et tout à fait énigmatique. Et il faut toujours penser, n'est-ce pas, à l'exclusion que représente ordinairement une langue étrangère absolument opaque. Je lisais donc ces jours-ci du Valéry et je retrouvais cette notation. Valéry en voyage à Prague, c'est-à-dire au milieu de la langue tchèque, et disant, perdu à l'étranger dans la langue ignorée, tous se comprennent et sont humains entre eux. Tous se comprennent et sont humains entre eux, et toi, non, et toi, non. Voilà la situation du sujet qui ne parle pas, qui n'entend pas une langue étrangère dans laquelle il est plongé. Eh bien, l'énigme, justement, c'est qu'avec le haïku, qui est écrit dans une langue finalement qui m'est encore beaucoup plus étrangère que le tchèque, vous pourrez peut-être connaître de vagues mots slaves que je connais. Donc, le haïku, malgré tout, n'est humain. Et il m'est absolument humain. Et c'est là l'énigme. Comment cela est-il possible? D'autant que, en ce qui me concerne, je n'ai pour ainsi dire jamais cette sensation de familiarité avec d'autres poésies traduites d'autres langues. Les traductions, en général, font un barrage très sérieux quant à ma lecture. Bah, je peux lire, évidemment, je dirais, des grands romans étrangers traduits en français, comme Tolstoï, Dostoïevski, ou Don Quichotte, etc. Mais, dès qu'il s'agit de poésie, je n'accède pas bien à la traduction. La traduction ne me vient pas, elle ne m'est pas précisément humaine, quelle qu'elle soit. Il est très rare qu'une traduction de poésie me soit humaine, et c'est pour cela que j'ai toujours eu tendance, probablement à tort, mais c'est un fait, à me replier sur ma langue, qui est le français, et avoir un rapport absolument privilégié avec la langue française. Et c'est pour ça que je n'ai, pour ainsi dire, jamais écrit sur des auteurs étrangers, sauf cas d'espèce, dans le cas de Brecht, par exemple, parce qu'il s'agissait de théâtre. Alors, comment est-ce que cette familiarité est-elle possible? Eh bien, je me l'explique ainsi. Je dirais que le haïku, c'est la conjonction d'une vérité non conceptuelle, vérité existentielle de l'instant, d'une part, et d'autre part, d'une forme. Et je pense encore à cet autre mot de Valéry. Faire voir que la pensée pure et la découverte de la vérité en soi ne peuvent jamais aspirer qu'à la découverte ou à la construction de quelque forme. On cherche la vérité pour produire une forme. Position très provocante à l'heure actuelle. Bien, je crois en effet que la forme, le quelque forme, une forme, prouve, manifeste la vérité. Il y a une preuve par la forme, distincte de la preuve par le raisonnement. On pourrait dire à cela que pour nous, français, le haïku n'est pas une forme, puisque nous ne le percevons pas dans sa métrique. Quoi je répondrai précisément, si c'est une forme. C'est une forme même pour nous français, et la seule explication du lien de familiarité que j'ai avec le haïku traduit, c'est que la brièveté de l'énoncé, l'encadré de l'énoncé, est déjà une forme en soi. Voilà déjà ce que le haïku m'apprend, la forme brève est un inducteur de vérité. Et c'est de cela dont nous avons la sensation, lorsque nous lisons un haïku, malgré toutes les distances de la langue et de la structure poétique, nous avons l'impression d'un rapport qui correspond au titre que Goethe donna à l'un de ses recueils, Poésie et vérité. Poésie et vérité nous apparaît à travers le haïku comme un syntagme juste. Et peut-être que la seule justification de la poésie, très paradoxalement, c'est la vérité. Ça n'est pas la beauté, pour reprendre les concepts classiques, ce serait finalement la vérité. Dans la poésie, la forme et la forme seule fait toucher la vérité. Il y a un pouvoir tactile de la forme, on touche le mot, on touche le vers, on touche le verset, et c'est comme si on touchait la vérité. Le deuxième problème posé par la production des haïkus et celui-ci, c'est le problème de la traduction poétique du haïku. Alors, comme je vous l'ai indiqué, certains traducteurs ont voulu traduire en vers français, sans rime, le 5, 7, 5 syllabes. J'ai lu la traduction de Kant, mais en fait, je le dis franchement, pour moi, cela n'a aucun sens. Nous ne pouvons percevoir un mètre, une mesure, un rythme syllabique, que si la formule métrique nous est en quelque sorte soufflée par notre propre culture poétique. Et si le code est comme une trace, un feuillage imprimé et incisé dans nos ménages, et reparcouru, reconnu par la performance du poète. Autrement dit, je dirais à la limite que il me semble qu'il n'y a pas de rythme en soi et que tout rythme est civilisé. Sinon, la formule est mate, et ça n'est pas une formule. Elle n'opère pas, ne fascine pas, ou si vous voulez, n'endort pas. Parce que dans notre culture, nous n'avons pas la formule 5-7-5, et que nous avons très peu de 7, très peu d'heptasyllabes, et très peu de 5 syllabes, eh bien, par là même, nous ne pouvons pas accéder au charme, à la fascination de ce rythme. Et par conséquent, ça n'est pas la peine d'essayer de le reproduire en français. Je veux dire que tout rythme a pour fonction, tout rythme et donc le rythme poétique aussi, a pour fonction d'exciter, d'apaiser le corps, ce qui, à un certain niveau, à un point très éloigné, à un point profond et primitif du corps, est la même chose. Exciter et apaiser, à un niveau très éloigné, c'est pour ainsi dire la même chose. Exciter ou apaiser le corps par la formule, la formulation, la formule, c'est intégrer le corps à une nature, c'est donc le réconcilier, c'est faire cesser la séparation, c'est le décevrer. On a pu dire, n'est-ce pas, que un théoricien de la rhétorique et du maître de la métrique, du morphine, a dit que le maître, du vers, avec sa monotonie, conduisait à l'euphorie et à l'idylle, que le vers était pacifique. Bien peut-être qu'effectivement, le vers est toujours pacifique, et que sa fonction est d'une certaine façon d'endormir, d'apaiser, de calmer, de pacifier, de réconcilier le corps. Or, en français, je vous répète, ce n'est pas vérifié, mais il me semble qu'il y a très peu d'heptasyllabes, et pour ainsi dire, pas de pentasyllabes. Mais toujours, il faudrait évidemment vérifier, je ne suis pas du tout compétent, ma culture politique est très, très faible, et il faudrait vérifier, en partant de ce principe, que dans la littérature, tout existe. Le seul problème, c'est de savoir où ça existe. Donc, il y a sûrement en français des vers de 5 syllabes. Donc, ces réserves, ces précisions données sur la traduction, je dois constater que le tercet haïkiste, le haïku, exerce sur nous, en tout cas sur moi, au moment, une fascination. Et non pas la métrique, puisque la traduction ne respecte pas la métrique. Une fascination qui s'exerce probablement par sa taille, par sa ténuité, c'est-à-dire métonymiquement par l'aération dont il est gratifié, ou dont il gratifie l'espace d'une discours. Le haïku, en effet, c'est une forme brève par excellence, et c'est un fait de lecture. Les formes brèves attirent l'œil sur la page. Il faudrait là tenter une sorte de phénoménologie du vers, même et surtout libre. Les vers libres ne se lisent pas comme s'ils étaient mis bout à bout. Enfin, la cassure blanche de la page vers attire, repose et distrait. Et on va toujours à une forme brève parce que justement elle est aérée. On y va toujours sur une page comme à quelque chose qui ne va pas ennuyer. Prenez par exemple une forme qui n'a rien à voir avec le haïku, comme l'épigramme de Martial, par exemple. Eh bien, si vous feuilletez un livre, le livre Les épigrammes de Martial, vous constaterez que vous irez volontiers au plus court. Dès que vous envoyez une ou deux lignes, c'est celle-là que vous cueillez d'abord.
car il est extrêmement curieux que dans la lecture, n'est-ce pas, est un phénomène extrêmement curieux, puisque d'une part, on y cherche un plaisir intense, mais que d'autre part, c'est la même chose d'ailleurs, on évite d'une façon presque chirurgicale tout ce qui risque d'ennuyer. Donc il y a une sorte de brutalité dans la lecture, qui fait qu'on va chercher ce qui ne vous ennuie pas, d'abord. Et la forme brève comporte moins de risques d'ennui que la forme longue. Donc l'aération de la page, l'aération du tercet, me paraît nécessaire à la cueillette du L. Par exemple, dans l'édition Munier, traduction, il y a en général 3 haïkus par page, et c'est tout. Et c'est excellent pour la lecture. Donc, pour goûter le haïku, même et surtout en français, là où il y a évaporation de la métrique, il faut le voir écrit, avec la rupture des lignes. C'est un petit pavé aéré, un petit bloc d'écriture, comme un carré idéogrammatique. Au fond, je dirais qu'à un autre niveau mental plus profond et débarrassé des découpages superficiels du discours courant, on pourrait dire que le haïku, que un haïku, est à lui tout seul dans son entier, dans sa solitude, dans sa finitude sur la page, comme un seul idéogramme. Au fond, un haïku, c'est comme un seul idéogramme. C'est au fond un mot, un haïku. Et justement, encore une fois, j'étais en train de préparer ceci quand j'ai lu un petit peu les remarques de Valérie, et j'ai trouvé ceci qui allait si bien, parce que à ce moment-là, j'étais très fier d'avoir trouvé tout seul, qui était ce propos de Mallarmé rapporté par Valérie, Mallarmé donc disant, moi, j'en suis arrivé à supprimer la ponctuation. J'ai dedans. Le vers est un tout, un mot neuf, jamais oui. Celui qui ponctue a besoin de béquilles, sa phrase ne va pas tout seul. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la ponctuation, le fait que les écrivains qui aujourd'hui renoncent à ponctuer prennent des risques énormes d'illisibilité, bien que ces risques était en quelque sorte prévu et demandé par Mallarmé. Je veux dire que Mallarmé encore contesté. Et disons que ce qu'il y a de beau dans l'idée de Mallarmé, c'est que le vers ou le haïku, ça soit comme un seul mot. Et que aussi cette idée que la phrase doit aller toute seule. Et que la ponctuation voudrait dire, si on l'amenait, que l'écrivain lui-même a peur et qu'il sent que sa phrase ne va pas tout seul. Bien, je dirais que le haïku va tout seul. Et c'est en cela que j'ai un bon rapport avec le haïku, c'est qu'en général, il va tout seul jusqu'au bout. Et je voudrais vous signaler quand dans le recueil renéotypé que certains d'entre vous, pas tous je crois, ont entre les mains, le corpus de haïku, eh bien, en fait, je pourrais supprimer la ponctuation. Je l'ai laissé comme ça par une certaine facilité, mais au fond, il pourrait corriger et supprimer la ponctuation. Donc, ça, c'était la première remarque, le haïku comme un mot, et cela lié à l'aération de la page. Et deuxième remarque, c'est que malgré ou à travers son raffinement, le haïku ne serait pas sans affinité, je dirais sans sympathie, avec cette expression que, depuis Lacan et Julien Kristeva, on appelle un ou une, ou une, holophrase. H-O-L-O, phrase. Holos veut dire simple. L'holophrase, vous savez, et l'espèce de geste verbal indécomposable qui est manié surtout par les petits-enfants en train d'apprendre à parler quand ils ne font pas encore de phrases, mais ils manient même des mots et ces mots ne sont pas évidemment seulement quand l'enfant lance un mot, ce n'est pas évidemment un terme, ce n'est pas un substantif au sens grammatical du terme, c'est l'expression globale d'un désir, d'une pulsion d'un désir, et c'est donc plus qu'un mot, mais ça n'est pas encore une phrase, c'est une holophrase. L'holophrase étant en quelque sorte l'expression non fétide du désir. Enfin, le fétide commence avec la phrase, c'est-à-dire quand il y a un sujet et un prédicat, il y a thèse, il y a fétide, mais avant d'en arriver au fétide, c'est-à-dire à la phrase avec sujet et verbe, il y a cette phase où l'enfant produit des holophrases. Ah. Si on suit, disons, le vocabulaire freudien, eh bien, la phase, c'est-à-dire une syntaxe tétique où le désir est exprimé à travers un code tétique où il y a un sujet et un attribut, ah. Eh bien, à ce moment-là, la phase vient à l'enfant en même temps, à peu près, que le dit. Ah. Et il y a évidemment un lien de structure entre la phase qui est en position d'une loi de la langue et de l'autre, et le tandis que l'holophrase est une période en quelque sorte antérieure. Bien, on pourrait imaginer que le haïku, bien que ce soit bien sûr construit avec les phrases, avec une syntaxe, virtuellement, tendanciellement, c'est une holophrase. Donc la typographie est, je crois, une détermination de lecture. Le fait qu'on aille à la ligne après chacun des vers du tercet est très important, car cela constitue le haïku, même lorsqu'il y a abolition de la méthode. Une preuve, si vous voulez bien, preuve si l'on peut dire, un indice qui va dans le sens de ce que je dis, c'est un problème qui a été posé par l'un des traducteurs du haïku, Koyo, et qui s'est demandé, à très juste titre, si certains poèmes français pouvaient approcher le haïku, est-ce qu'on pouvait les considérer, certains poèmes haïku, comme des sortes de, ou certains poèmes français, comme des sortes de haïku virtuels. Eh bien, je pense que non, ça n'est pas possible, pour des raisons qui réapparaîtront plus tard dans la suite du cours. Mais, je dirais que ce qui est sûr, c'est que si quelques formes pouvaient chez nous penser, de temps en temps, faire penser parfois au haïku, ce ne serait pas un poème, si court soit-il. Il y a des poèmes extrêmement courts, par exemple dans Victor Hugo, mais ce n'est pas du tout cela qui pourrait nous faire penser au haïku. Ce serait parfois seulement un seul vers qui peut, quelquefois, sonner à lui tout seul comme un haïku. Mais encore faudrait-il alors, je suis toujours mon idée sur l'aération constitutive du poème, faudrait-il alors, même si cela apparaît puéril, faudrait-il alors consommer ce vers en trois parties pour que ça devienne un haïku, c'est-à-dire mimer visuellement le haïku, même si cela n'a aucune réalité. Encore une fois, l'aération du graphisme fait partie de l'être du haïku. Mallarmé, n'est-ce pas, justement, réfléchissant sur le vers libre, avait dit qu'il y avait d'énormes difficultés à faire des vers, comme il disait, sans cloison. Des vers sans cloison. Eh bien, on peut dire que quand on va à la ligne après un vers et qu'on laisse par conséquent un blanc, ce blanc est comme une sorte de manchon vert, un tampon vert, une cloison de vide, une cloison vide, une cloison d'air, et que c'est cela qui fait le vers. Enfin, il faudrait rappeler le rapport de la graphie et de la peinture chez les orientaux, en tant que ce rapport collabore à la constitution d'espace vide. Nous interrompons pas trop. sur ce vide, mais chaque fois que les poètes calligraphes chinois parlent, on fait des compositions où il y a à la fois des dessins et des vers, eh bien, il y a toujours cette sorte d'aération de vide qui revient. Et je vais vous donner comme exemple, mais très subjectif, comment je dis les choses, de ce problème du vers français qui peut devenir haïku si on admet de le consommer, un vers du poète Miloš, qui est à mon avis presque un haïku, et nous verrons peut-être plus tard en quoi, à mon avis, il ne l'est pas tout à fait. Ce vers, donc, se dit, et se lit surtout, comme un seul vers, sur une seule ligne, pas, et c'est, toi, virgule, triste bruit de la pluie sur la pluie. Toi, virgule, triste bruit de la pluie sur la pluie. Eh bien, je dirais que ce vers gagnerait en haïku ou en haïkuté, permettez, si nous l'écrivions en trois consonnes. Toi, à la ligne, triste bruit de la pluie, à la ligne, sur la pluie. Vous auriez presque un haïku. Parce que je dirais que le contenu, c'est-à-dire la notation de sensibilité, est très haïkuiste. Le rapport des deux fruits, des bruits des deux fruits, est quelque chose de très haïku. Mais encore faudrait-il qu'il y ait cette aération. Et en fait, ce qui n'est pas haïku, à mon sens, c'est l'interjection toi. Alors, je le répète, il ne faut pas sous-estimer l'effet de disposition de la parole sur la page. Tout l'art oriental chinois est un respect de l'espace, c'est-à-dire, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, le radote, de l'espacement. Non pas de l'espace, mais de l'espacement. Et vous savez que le japonais, c'est ça qui est le moins proche à le japonais ne connaît pas, paraît-il, vraiment les catégories kantiennes et kantiennes de l'espace et du temps, mais une autre catégorie qui les traverse toutes les deux, la catégorie de l'espacement, de l'intervalle, que ce soit en temps ou en espace, qu'on appelle en japonais ma, M-A. Eh bien, je fais là une remarque, c'est que quand on parle du vide oriental, ça ne doit pas être en général dans un sens bouddhiste. Là, il ne faut pas confondre. Nous avons peut-être quelquefois tendance à mettre un peu dans la même région l'Asie, enfin la Chine et le Japon d'un côté, et de l'autre, le bouddhisme. Ça n'est pas la même chose, bien sûr. Il y a l'Himalaya, hein, et surtout, le bouddhisme est rattaché canoniquement à une langue qui est l'indo-européen, le sanskrit, l'indo-européen, et par conséquent, qui est très proche de nous, tandis que les langues proprement orientales n'ont aucun rapport avec cette structure de l'indo-européen. Donc le vide ne doit pas être reçu ici dans un sens bouddhiste, mais je dirais plus sensuellement, comme une respiration, une aération, et si on peut dire une matière. Et c'est plus où j'ai vu le mot d'un physicien qui m'a beaucoup surpris, j'espère qu'il est vrai, et que ma citation est exacte. S'il n'y avait pas d'espace entre la matière, tout le genre humain tiendrait dans un dé actif. Pas assez physicien pour vous expliquer cela, mais la métaphore est très belle, en tout cas. Eh bien, je dirais que le haïku, c'est l'anti-déhaïku. C'est l'anti-condensation totalisante, et c'est cela que dit le tercet haïkuiste. Deuxième remarque, c'est que le ma japonais, l'espacement, eh bien, nous verrons que le haïku, donc, comporte déjà un espacement visuel sur la page, implique aussi impliquera, nous le verrons, une pratique du temps espacé, du ma temporel. Alors évidemment, vous pouvez me dire que je suis en train de faire une philosophie du haïku écrit, alors qu'à l'origine, notamment, il était dit, il était parlé. Mais vous savez que je ne m'occupe pas de l'origine, de la vérité historique du haïku, je m'occupe du haïku pour moi, sujet français, qui en lit des traductions en recueil. Et moi-même, d'ailleurs, je pense que je ne saurais pas lire un haïku à haute voix. Je veux dire, bien sûr, je vais en lire, je ne vais pas faire autrement, mais je ne saurais pas, je le sens à l'avance, lire un haïku en produisant, je dirais, un effet de vérité. Son effet de vérité. Je ne saurais pas comment le lire. Je vais les lire, les haïkus dont je parlerai, d'une façon mieux, mais en dehors de la production d'un effet de vérité. Et alors que cet effet de vérité, je l'ai dès que je lis le haïku mentalement par les yeux. Alors pour donc articuler ce que je voudrais dire du haïku, j'ai préparé, vous le savez, un petit recueil de ces poèmes. Et je me référerai à tel ou tel haïku de ce passage selon les besoins du propos. Et je précise tout de suite, ce recueil, que certains de vous, d'entre vous, ont entre les mains, pas, n'est pas une anthologie. Il ne s'agit pas du tout des plus beaux haïkus, ni même des haïkus que je préfère moi. Il s'agit des haïkus dont j'ai besoin dans mon travail. Donc, ça n'est pas, j'aurais dû même l'écrire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'une anthologie, il s'agit d'un corpus de documents, de poèmes sur lesquels on va travailler. Alors, les traductions proviennent de plusieurs recueils. Il y a d'abord une œuvre, mais j'ai eu ce livre, je l'avais acheté, je m'en rappelle. Je l'ai perdu, comme tous les livres importants, et j'ai voulu le retrouver, et il n'est plus en vente nulle part, et c'était pire, je n'ai même pas pu retrouver la bibliographie. J'étais à la Nationale, j'ai fait des bibliothèques spécialisées, je n'ai pas pu retrouver la référence bibliographique d'un livre que pourtant j'ai lu entre les mains, donc il n'est pas un objet halluciné. Ce livre, alors, si vous l'a trouvé, vous l'a donné, bien sûr, pour que j'en fasse part à tout le monde, c'est un recueil de haïkus très complet en 4 volumes. Les haïkus sont traduits en anglais. C'est fait par un anglais dont le nom est Bliss. Bliss, c'est pas B-L-Y-T-H. Bliss. Alors, si vous trouvez ce recueil de Bliss, si vous en trouvez la référence, vous voulez bien me la donner. Si vous trouvez le livre, vous l'achetez et je vous l'achète. Alors, en français, il y a tout de même des traductions, bien sûr, et le hasard a fait qu'il y a eu l'année dernière, donc très récemment, de la traduction de deux livres de haïku. Il y a d'abord le livre de Koyo, C-O-Y-K-L-D, je trouve ça pour ceux qui n'ont pas le passé, Maurice Koyo, qui s'appelle Tourni sans ombre, Tourni au pluriel sans ombre au singulier, le livre du haïku, Anthologie promenade, aux éditions Phébus, Paris, 1978. À ce livre de Koyo, il faut ajouter ce qui n'est pas proprement parlé, un recueil du haïku, mais où il y a de nombreux haïkus traduits, un autre livre donc de Maurice Koyo, qui s'appelle Fêtes, au pluriel, Fêtes au Japon, haïku, qui est dans une, publié par l'association modeste qui s'appelle Pour l'analyse du folklore, PAF, 36 rue de Wagram, 8e, Paris 8e. Et alors, le second grand recueil anthologique, récent, c'est le livre de Roger Munier, M-U-N-I-E-R, qui s'appelle Haïku, avec une préface d'Yvonne Foy, publié chez Fayard en 1978. À cela, j'ai ajouté personnellement quelque chose qui était dans la bibliothèque de ma maison, disons, qui est un petit recueil publié en 1924 par une japonaise qui s'appelait Kiku Yamata, et ça s'appelle « Sur des lèvres japonaises ». Et il y a une lettre préface de Valérie, et c'est paru au Vivant en 1924. En ce qui concerne les vers français, dont je me servirai parce qu'ils ont un rapport problématique avec le haïku, j'ai cité déjà le vers de Chéadé, je me suis servi d'un livre que j'aime beaucoup, qui est l'anthologie du vers unique de Georges Chéadé, S-C-H-E-H-A-D-E, paru chez Ramsey, R-A-M-S-A-Y, en 1970. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je voudrais vous parler maintenant du désir de haïku, qui fera peut-être, comment dirais-je, d'une intensité discursive un peu supérieure aux problèmes pratiques de tradition qu'on va traiter aujourd'hui. Mais comme nous avons dans quelques instants un autre séminaire sur un séminaire sur un tout autre sujet, il vaut mieux que nous disposions cette espèce de cloison de vide entre le séminaire et le cours dont parlait Mallarmé. Donc la suite du haïku samedi prochain.
On va lui faire quelque chose.